Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Et salutations, mesdames, messieurs, que vous nous écoutiez au 98.5 à Montréal, au 104.7 Outaouais, ou au FM 93 à Québec, où je me trouvais ce matin.
des révélations personnelles.
Oui.
galante compagnie.
J'ai montré une photo que j'ai prise hier dans un stationnement avec un amateur de radio amateur.
Amateur, visiblement, oui.
Plein d'antennes sur sa voiture et aussi des autocollants.
Oui, des autocollants extraterrestres.
Oui, des autocollants d'extraterrestres. Terrestre, UFO, Route 66 aux États-Unis. Et puis, tout me fait penser à toi et à notre émission, Christian, ces temps-ci.
Mais en fait, c'est vrai que quand on regardait la photo que tu m'as montrée, je me risquerais à avancer que le type a certainement fait un petit crochet, soit par la zone 51, soit par Roswell, parce que pour y être allé à ces deux endroits-là, c'est à peu près le genre de produits dérivés qu'on va retrouver, ces petits autocollants, des petits extraterrestres, tout ça. Donc, on peut supposer que ce monsieur, aujourd'hui, peut-être à l'écoute de notre émission Mythes et complots, parce qu'effectivement, nous allons parler des extraterrestres.
Oui, notre première émission a été excessivement populaire et à la demande générale, on revient sur les extraterrestres, mais sous un autre angle, celui-là, l'angle de la présence extraterrestre, leur intervention dans l'ancien temps, en fait, si je peux m'exprimer simplement. Dans l'histoire, sont-ils intervenus? Ont-ils participé, par exemple, auprès de civilisations anciennes à des constructions comme celle des pyramides d'Égypte.
Voilà.
Et on va parler donc de la théorie des anciens cosmonautes, des anciens astronautes.
Voilà. Donc, cette théorie des anciens astronautes, écoute, pourquoi avoir choisi ce sujet aujourd'hui? Parce qu'il y a au départ une nouvelle qui est sortie au cours des derniers jours, qui est fort intéressante et qui concerne justement la construction des pyramides d'Égypte.
Oui.
Quand on parle des pyramides d'Égypte, il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 80 pyramides en Égypte et non pas seulement les trois pyramides importantes qu'on retrouve sur le plateau de Gizeh, parce que dès qu'on voit des photographies, c'est toujours les trois mêmes pyramides qui sont tout près du Caire, et qui sont sur le plateau de Gizeh, dont la plus haute pyramide jamais construite, celle de Khéops ou Khoufou, qui atteignait une hauteur initialement de 147 mètres. Donc, elle est un peu une énigme en soi, c'est-à-dire, et à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'au départ, les historiens se sont posé la question, comment est-ce que cette pyramide a pu être construite dans un premier temps? Comment on a pu hisser des blocs? Parce que chacun de ces blocs pèse le poids écrasant de 2,5 tonnes. Comment on a pu hisser de tels blocs à une hauteur de 147 mètres, parce qu'il faut quand même se rappeler, Jeffrey, que la pyramide, au départ, du moins actuellement, la théorie à la mode dans les milieux historiques, c'est de savoir que la pyramide devait servir de tombeau à un pharaon, le pharaon Khoufou. Or, tu comprendras que si Khoufou ordonne la construction d'une pyramide pour sa sépulture, on souhaite bien que cette œuvre soit achevée de son vivant. Donc, il demande ça et il est un peu là le problème. Comment est-ce qu'on aurait pu construire un monument comme celui-là dans une période d'une vie humaine? Donc, comment hisser ces blocs à une telle hauteur?
Avec des technologies anciennes.
Avec des technologies anciennes, à une époque où il n'y avait aucune grue, aucun camion. Et ensuite, l'autre problème, c'est que la plupart de ces blocs viennent de la carrière d'Aswan, qui est beaucoup plus loin sur le Nil. Donc, comment est-ce qu'on pouvait en transporter ces blocs jusqu'au plateau de Gizeh pour finalement assembler la pyramide?
Deux décennies seulement.
En deux décennies, parce qu'on croit à peu près que la pyramide a dû être construite sur une période d'à peu près 20 ou 25 ans. Alors, évidemment, il y a les pyramides ont à peu près 5000 ans, 4700, 5000 ans, et évidemment, on s'est posé de nombreuses questions par rapport à la construction. Il faut tout de suite se rappeler, Jeffrey, que à peu près 80% des textes anciens ont disparu. Ces textes étaient gardés ou bien à la bibliothèque d'Alexandrie, ou bien à la bibliothèque de Rome, ou bien à la bibliothèque d'Athènes. Et éventuellement, au gré des guerres ou des incendies, catastrophes, peu importe, la plupart de ces documents ont disparu. Donc ici, on nage en plein mystère, c'est-à-dire qu'on n'a pas de référence.
Donc dans l'Antiquité, il y a des pages qui manquent.
Il y a des pages qui manquent. En fait, pour faire un peu une analogie, imagine-toi avec un meuble IKEA à monter, mais t'as perdu le plan.
Oui, et donc, même avec le plan, en ce qui me concerne, mais ça, c'est une autre histoire.
Alors voilà, là, on vient de trouver, les archéologues ont annoncé cette semaine En fait, ils ont trouvé, il y a à peu près 2 ans, un papyrus, probablement le plus ancien papyrus jamais trouvé sur le chantier même des pyramides. Et ce papyrus, ce qui est fort intéressant, il a été écrit par un dénommé Merer. Il était l'un des architectes de la pyramide et il révèle ce papyrus, comme je l'ai mentionné, il a été trouvé il y a 2 ans, mais les archéologues, étant en contrat et avaient passé une entente avec la BBC, ne pouvaient pas en parler publiquement. Cet embargo la semaine dernière. Et là, voilà que les archéologues racontent que ce papyrus raconte de quelle façon les blocs étaient transportés de la carrière d'Assouan, qui est sur l'autre rive du Nil, jusqu'au plateau de Gizeh. Et là, on apprend qu'il y avait en fait des canaux. On avait construit des canaux qui évidemment réunissaient le plateau de Gizeh et le Nil, et les blocs étaient simplement placés sur des espèces de barges qu'on faisait glisser, qu'on entraînait à travers ces canaux jusqu'au chantier de la pyramide.
Et c'est quand même une ingénierie qui est impressionnante pour il y a 5000 ans.
Oui, absolument. Donc, on sait maintenant comment ces blocs étaient transportés de la carrière d'Assouan jusqu'au site de la construction des pyramides. Évidemment, il y a d'autres problèmes que pose l'achèvement de la pyramide, bien sûr. Comment on déplace les blocs, comment on les assemble, comment on les monte à une hauteur de 147 mètres, et aussi comment on organise le travail, parce que c'est un immense chantier que celui de la construction de la Grande Pyramide.
Parce que ceux qui disent qu'il y a probablement eu intervention extraterrestre mentionnent souvent qu'il aurait fallu que ce soit 500 blocs par jour à poser pour que la pyramide soit achevée en 20 ans,
voilà,
ou à peu près.
Et ça, c'est amusant parce que souvent, on nous présente les théoriciens, les gens qui adhèrent à la théorie des anciens astronautes, souvent vont un peu nous inonder avec des chiffres énormes, mais qui, somme toute, ne veulent pas dire grand-chose. Pardon, tu as mentionné cette histoire de 500 blocs par jour. Alors, c'est tout à fait vrai. On sait qu'il y avait 100 000 ouvriers qui travaillaient à la construction de la pyramide. Il y a à peu près 2 400 000 blocs de pierre qui constituent la pyramide. Elle a été achevée sur une période d'à peu près 20 ans. Donc, si on fait le calcul, 100 000 ouvriers travaillant au rythme accéléré pour pouvoir construire cette pyramide, il aurait fallu que 500 blocs soient, on parle bien de couper, déplacer, amener au chantier, soulever et mis en place, 500 blocs par jour.
Et là, depuis l'embargo levé, on a l'explication de
donc
ces 500 blocs par jour.
Donc, on sait comment on les amenait jusqu'à la pyramide. On ne nous explique pas encore comment on les montait et on les mettait en place. Mais il faut dire que les historiens ont quand même des bonnes idées. Ils ont pensé, par exemple, à des rampes, des systèmes de levier. Donc, en soi, on a plusieurs hypothèses. On n'a aucune certitude. Il faut se rappeler qu'on n'a pas de document qui nous dit...
Ce sont des hypothèses
plausible. Qui tiennent la route. C'est-à-dire qu'on est capable de refaire ça avec les technologies de l'époque. Il est possible qu'on ait déplacé les blocs de cette manière ou qu'on les ait grimpés de telle ou telle façon. Évidemment, c'est ce 500 blocs coupés, déplacés, mis en place par jour qui semble absolument extraordinaire. Et pourtant, je vais te présenter le problème différemment, mais en utilisant les mêmes chiffres, et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est pas si extraordinaire que ça. On sait que chaque groupe d'ouvriers, on avait 100 000 ouvriers, on sait que ces 100 000 ouvriers étaient répartis en petits groupes de 5 hommes à peu près. Donc, 5 hommes qui s'occupaient chacun d'un bloc.
Parfait.
Donc, si tu as 100 000 ouvriers, tu as donc 20 000 équipes qui travaillent à déplacer un bloc. Et ce 20 000 ouvriers, si on le regarde, pour chacune de ces équipes, si on le prend individuellement ou par équipe, chaque équipe, pour pouvoir avoir ces 500 blocs placés par jour, chaque équipe avait en fait près d'un mois et demi pour couper son bloc, le déplacer et le mettre en place. Donc, si tu reprends ça, et pourtant ce sont les mêmes chiffres, les mêmes blocs, le même poids, mais vu de cette manière-là, on se dit, finalement, si chaque équipe avait presque un mois et demi pour mettre en place son bloc, ça devient soudainement quelque chose de réalisable. L'impossible s'est évaporé.
Et absolument. Hier soir, j'étais avec des amis ingénieurs à Québec, puis ils m'ont dit, quand je leur ai raconté ce que tu m'avais raconté cette semaine, plutôt, en
à
fait,
propos
cette,
de ça.
Cette explication, c'est tout à fait plausible.
Ouais,
c'est,
voilà.
C'est
donc,
logique.
On a
ça devient rationnel.
Voilà. Donc, on a 20 000 équipes. Chaque équipe, donc, on a bien compris que lorsque l'équipe 1 a posé son bloc, l'autre équipe suivante, c'est l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4. Oui. Et avant que ça revienne au tour de l'équipe 1 de placer son bloc, il y aura à peu près un mois et demi que ce sera écoulé. Donc, en un mois et demi, ces 5 ouvriers avaient pour mandat de couper le bloc, le déplacer sur ces fameuses barges à travers les canaux qui amenaient jusqu'au plateau de Gizeh, et une fois rendu sur place, la hisser à la hauteur voulue. Donc, tout ça devient devient un peu réalisable, même si, il faut pas minimiser la chose, ça reste, les pyramides d'Égypte, la grande pyramide de Khoufou, demeure à ce jour la seule merveille du monde de l'Antiquité qui est survécue. On connaît les autres, le Colosse de Rhodes, les jardins suspendus de Babylone, le temple de Diane à Éphèse. Donc, ces grandes réalisations de l'Antiquité ont toutes disparu, sauf la grande pyramide de Khoufou, et c'est vrai qu'elle est impressionnante. Pour y être allé, Jeffrey, je te dirais qu'une fois que tu es au pied de la pyramide, et j'imagine que sûrement des auditeurs qui nous écoutent cet après-midi, qui ont vu les pyramides de leurs yeux, il n'y a pas de mots pour décrire l'immensité de la chose. On est littéralement au pied d'une montagne faite de mains d'hommes à une époque, je le répète encore une fois, où il n'y avait ni grue ni camion. C'est une œuvre, c'est un chantier qui était colossal.
Et la théorie des anciens astronautes, Christian, définissons-la.
La théorie des anciens astronautes, je pense que là, les gens ont bien compris la prémisse de base. Ouais. C'est cette idée que certaines réalisations dans l'histoire semblent si extraordinaires qu'il est difficile d'imaginer que les anciens, entre guillemets, aient pu faire une telle œuvre sans l'intervention d'une technologie, ce qui appelle bien sûr une intervention extraterrestre. Donc, cette idée que les grandes civilisations de l'histoire ont été en contact avec les extraterrestres, elle est apparue, en fait, dans les années 50. Déjà à cette époque, il y avait, j'ai en tête, par exemple, le nom d'un type qui s'appelle Robert Charroux. De son vrai nom, il s'appelait Robert Grugeau. Ce type-là a écrit des ouvrages, dont notamment « Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans ». Dans ces ouvrages, il évoquait cette possibilité d'un très ancien contact entre les civilisations de l'Antiquité et les extraterrestres. Mais c'est vrai que les ouvrages de Robert Charroux étaient un peu hermétiques, s'adressaient à une certaine élite. Et ces ouvrages-là n'ont pas connu beaucoup de succès. Arrive ensuite 1960, Jacques Bergier et Louis Powell vont publier un ouvrage assez important qui s'appelle « Le matin des magiciens » qui est publié en 1960 et qui connaît beaucoup de succès. Mais vraiment, le père de la théorie des anciens astronautes arrive en 1968. C'est un Allemand, un Suisse-Allemand du nom de Erich von Daniken. Il publie un ouvrage dont je te ferai grâce du titre en allemand, mais disons que si je le traduis en français, ça voulait dire « Souvenir du futur ». Le livre a été traduit en fait en français sous le titre de « Présence des extraterrestres »,« Chariot of the God » en anglais. On parle ici d'un ouvrage qui s'est un grand succès de librairie, qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Et il faut comprendre également le momentum.
Le contexte.
Oui, voilà. Erich von Daniken ne fait que plagier des auteurs qui ont publié des trucs un peu avant lui. Mais von Daniken publie son ouvrage, on est dans la deuxième moitié des années 60, les années 67, 68. Rappelons-nous un peu ce contexte-là. On se prépare à envoyer des hommes sur la Lune. Les designers de mode viennent d'inventer le bikini. On écoute les Beatles, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. En fait, tout ce qui remet en question l'institution, en France, on a mai 68, la révolte étudiante. Donc, tout ce qui remet en question l'institution est accueilli de façon générale. Et voilà que von Daniken, qui ne fait que reprendre des idées qui ont déjà cours depuis une dizaine, vingtaine d'années, son livre connaît instantanément un succès planétaire. Et il est celui qui va lancer la théorie des anciens astronautes. Ce sera éventuellement suivi par un documentaire, un très, très beau documentaire avec des images percutantes, bien sûr très partisan de la théorie des anciens astronautes. Mais voilà, la table est mise et on va adhérer à cette histoire des anciens astronautes.
Croyez-vous que les extraterrestres soient intervenus dans l'histoire auprès des grandes civilisations anciennes, par exemple dans la construction des pyramides d'Égypte? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Vous pouvez nous écrire mythe au pluriel à commercial@cogecomedia.com. Vous écoutez Mythe et Complot et on revient dans 2 minutes et demie.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythe et Complot avec l'enquêteur du paranormal Christian Page et Jeffrey Soubrani.
L'œil géant du Mont Palomar voit des milliards d'étoiles dans le ciel. Les enquêtes scientifiques dans le monde entier posent toutes la même fascinante question: sur combien de ces étoiles y a-t-il de la vie? Nous savons par exemple que dans notre seule galaxie, 50 millions d'étoiles sont susceptibles de présenter une forme extrêmement avancée de vie. Il est très possible que notre planète, dans un passé fort lointain, ait accueilli un visiteur venu de l'une de ces 50 millions d'étoiles.
Là, ce que tu viens d'entendre, Jeffrey, c'était un extrait de du documentaire Présence des extraterrestres. 50 millions d'étoiles, il faudrait le multiplier par 10 là, maintenant, parce que c'est un documentaire qui date quand même du début des années 1970, qui était une adaptation en documentaire du livre de Eric von Daniken, Présence des extraterrestres. Le documentaire avait un titre éponyme.
Un documentaire qui a marqué ton enfance.
Oui, c'est un documentaire qui nous a fait rêver. C'est sûr qu'aujourd'hui, les historiens, bon, on va en parler, bien sûr, de ce bras de fer entre les historiens et les théoriciens de la théorie des anciens astronautes. Mais c'est un documentaire qui m'a fait, moi, rêver. J'ai vu ça dans le milieu des années 70. J'étais gamin à l'époque. On nous présentait toutes sortes de soi-disant preuves, mais c'était présenté d'une façon... La musique était belle, les images étaient léchées. Écoute, j'y ai cru, là. J'ai embarqué là-dedans. Et que Eric von Daniken ait dit un paquet de bêtises dans ses ouvrages, ce que dénoncent les historiens. Mais pour moi, je vais être très franc avec toi, Jeffrey, si je n'avais pas lu von Daniken, si je n'avais pas vu ce documentaire de Présence des extraterrestres, je ne serais peut-être jamais intéressé aux extraterrestres. Cette histoire-là, ce documentaire était tellement bien réussi que ça m'a amené à m'intéresser à ce sujet-là.
Parlons Alors, c'est un documentaire partisan.
Absolument partisan. Les gens peuvent le voir dans sa version française, Présence des extraterrestres. C'est disponible sur YouTube. Ça date du début des années 70. Donc, bien sûr, il faut un peu réadapter certaines données à la lueur de nos connaissances actuelles. Mais quand même, c'était magique. Avoir vu ça, ça a été magique. Et je pense que toute une génération comme moi, qui ont commencé à s'intéresser aux énigmes de l'histoire, les Mayas, les Incas, les anciens Égyptiens, ils ont commencé à s'intéresser à ces sujets-là, probablement parce qu'ils ont vu le documentaire ou ils ont lu von Daniken.
Et on veut prendre des appels dans les prochaines minutes. Donc, juste rapidement, Christian, une série Ancient Aliens qui, au cœur de la série, il y a deux personnages clés qui parle des extraterrestres et d'une présence qui date de... En fait, il y a un personnage, là, tu vas nous en parler. Lui, ce qu'il dit, c'est que les humains proviennent des extraterrestres, voilà. En fait.
Donc, pour lui, c'est Giorgio Tsoukalos.
Oui.
Et il est un peu le fer de lance. En fait, il y a deux fers de lance importants dans cette série « Nos ancêtres, les extraterrestres », qui est diffusée sur une chaîne à caractère historique au Québec. Et en anglais, c'est « Ancient Aliens ». Ce qu'il faut savoir, c'est que cette théorie des anciens astronautes, présentée par Eric von Daniken dans les années 60, a connu le haut du pavé pendant une vingtaine d'années. Et puis ensuite, il y a eu une espèce de mise en veilleuse. Je dirais quand il est arrivé à peu près les années 2000, c'était beaucoup moins populaire. Et puis arrive aux alentours des années 2010, voilà que des historiens, pas des historiens, mais des réseaux de télé vont s'intéresser à cette histoire des anciens astronautes et ils vont remettre ça au goût du jour et c'est un second souffle pour cette hypothèse des anciens astronautes. Parmi les gens, comme je l'ai mentionné, les deux fers de lance qu'on voit dans cette émission, Giorgio Tsoukalos et David Hatcher Childress, ces deux gens-là, ces deux personnes-là, bien sûr, tout se résume aux extraterrestres, c'est-à-dire que les pyramides, tout est assaisonné avec les extraterrestres. La grande problématique de cela, et c'est un peu ce que dénoncent les historiens, c'est que ces deux personnages-là, et bien sûr, de temps à autre dans cette émission, on voit aussi le pontife Eric von Daniken qui fait souvent des apparitions, même s'il est très âgé aujourd'hui. Mais le problème avec Giorgio Tsoukalos, David Hatcher Childress, et évidemment avec Eric von Daniken également, c'est que ces gens-là n'ont aucune formation en histoire. Et c'est un peu ce que dénoncent, disons, les milieux académiques. On a toute une série qui nous parle d'énigmes historiques, mais les principaux porte-parole de l'hypothèse n'ont absolument aucune formation académique ou scientifique dans le domaine de l'histoire. Giorgio Tsoukalos est une formation universitaire dans le sport. En fait, il est journaliste sportif. Et David Hatcher Childress, il trafique un petit peu son CV en disant « j'ai une formation en archéologie ». Mais il faut bien comprendre qu'il s'était inscrit à des cours en archéologie à l'Université du Montana, mais il n'a fait qu'une session avant d'abandonner. Donc, c'est une formation plutôt avortée. Et bien sûr, ce Childress est aujourd'hui éditeur d'une maison d'édition, donc il édite ses propres livres, qui fait bien sûr la promotion de cette théorie des anciens astronautes, et que l'on peut suivre maintenant, je pense qu'ils en sont rendus à leur 7e ou 8e saison de Ancient Alien, et bien sûr, on est très partisans de l'hypothèse des anciens astronautes.
Tsoukalos va même jusqu'à dire, comme je le disais, puis je précise parce que je m'exprimais, je vais clarifier ce qu'il dit, là, c'est que à l'ancien temps, avant que l'humain existe, les extraterrestres sont venus sur la Terre et grâce à une mutation génétique, l'humain s'est mis à exister.
Et en fait, ce qu'il soutient, c'est ça. Donc, on serait une création génétique des extraterrestres. Mais c'est un discours qu'on retrouvait déjà dans les années 60. Des gens comme Bergier Powell avaient écrit là-dessus. Il y avait des gens qui avaient... on pense par exemple à Raël. Le Claude Vorilon, Raël, tient à peu près le même discours. On a été enfanté finalement par des extraterrestres. Ouais. Et quand les gens qui croient à la théorie des anciens astronautes font un peu un rappel de ça, ben, ils vont souvent évoquer des textes anciens qui parlent de comment des dieux ou des gens venus du ciel se sont unis aux filles des hommes et qu'ils ont donné des races, des civilisations.
Daniel, est-ce que vous croyez que les grandes civilisations de l'histoire ont pu être visitées par des extraterrestres?
Oui. Salut, vous deux, ça va?
Oui. Ben oui.
Ah, c'est le fun d'avoir une émission de même. Christian, moi je crois, mais pourriez-vous me confirmer une affaire? Tous les documentaires que j'ai vus, les photos que j'ai vues sur les pyramides incas, puis on voit qui semble être un homme qui conduit un vaisseau spatial. Est-ce que vous l'avez vu physiquement au Mexique?
Oui, en fait, ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle la dalle de Palenque. Hein? On est dans le Chiapas, on est donc au sud du Yucatan, donc cette région de l'Amérique centrale. Et on a trouvé, en fait, c'est assez étonnant parce que on a longtemps cru que les temples mayas, on dit souvent les pyramides mayas, mais en fait, ce sont des temples. Ils avaient quand même une vocation différente des pyramides. Les pyramides en Égypte étaient des tombeaux et on avait toujours cru que les temples mayas étaient simplement des temples cérémoniaux. Et puis voilà qu'au milieu des années 50, un archéologue mexicain, Alberto Rose Lhuillier, va découvrir, en travaillant sur une pyramide qui s'appelle la pyramide ou le temple des inscriptions, dans cette ville maya, cette cité maya du nom de Palenque, il va s'apercevoir que sous le dallage du temple, il y a un escalier qui mène au cœur de cette pyramide. Et là, je mets toujours le mot pyramide entre guillemets. On parle ici de temple, oui, mais des temples pyramidaux. Il va trouver donc cet escalier qui amène au centre de la pyramide. Et là, il y a le cercueil d'un roi, le roi Pacal. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a sur le couvercle du tombeau, il y a une espèce d'homme qui semble assis dans une machine volante et on a appelé l'astronaute de Palenque. Donc, la copie, hein, parce que l'original est toujours dans le temple en question, mais une copie de cette dalle existe au Mexique, elle est au musée de Mexico. J'ai visité le musée et j'ai plusieurs photos de la dalle. C'est quand même quelque chose de très impressionnant.
C'est fascinant
donc,
à quel point...
Donc, quelle est l'interprétation de ça? C'est-à-dire, et ce que nous dit notre auditeur, effectivement, ça a été... Je t'ai parlé de ce documentaire de présence des extraterrestres. C'est vrai que cette dalle de Palenque, l'astronaute de Palenque, est un peu un élément central. On voit cet homme, il a les pieds repliés un peu comme s'il appuyait sur des pédales. Ses mains semblent tenir des manettes. On a l'impression qu'un tube lui entre dans le nez. Bref, on a l'impression d'un homme assis dans un vaisseau spatial avec tout le harnachement d'un astronaute. Ça, c'est la version, bien sûr, que donnent les théoriciens de les anciens astronautes. Pour les historiens, en fait, notre bonhomme en question ne serait finalement qu'un dieu, Kukulkan, qui grimperait sur une branche de maïs pour se hisser vers le ciel. Mais bien sûr, il faut savoir que chez les Mayas, on avait l'écriture, on avait inventé l'écriture, mais on n'a pas trouvé le moyen de le transcoder, donc on ne peut pas interpréter. Donc, c'est en fait une porte ouverte où on croit que c'est un homme grimpant un plant de maïs avec des figurines tout le tour, donc le dieu Chacmol sous lui, sur le dessus le serpent à plumes, donc des iconographies importantes dans la culture culture maya, et notre homme ne serait qu'un dieu se grimpant sur une branche de maïs, alors que pour les théoriciens de les anciens astronautes, il s'agit bien sûr de la reproduction d'un homme assis dans un vaisseau spatial.
Merci, merci Daniel, merci Christian. Dans un instant, je veux qu'on parle des anciennes civilisations qui auraient pu être des super civilisations.
Bien sûr.
Donc, on va se pencher sur cette théorie et on va vous parler à nouveau 514-790-9850, 1-866-790-9850. On revient après ceci.
OVNI, fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco.
À 20 km du Caire, Gizeh, le site des plus énigmatiques structures du monde. Les pyramides. La surface de base de la pyramide de Khéops mesure environ 53 000 mètres carrés, soit la surface d'une petite ville de 500 maisons. À l'époque où elle fut achevée, la pyramide avait une hauteur de 147 mètres. Elle n'a perdu que 10 mètres de sa hauteur initiale. Des couloirs conduisent à l'intérieur. Le poids total de la pyramide est de 6,5 millions de tonnes, soit environ le poids de 65 000 locomotives. 2 300 000 blocs de pierre ont servi à la construction de la 7e merveille du monde. Et chacun de ces blocs pesait le poids écrasant de 2,5 tonnes.
Présence des extraterrestres, un autre extrait. Mention spéciale, Christian, à la narration.
Oui, oui, absolument. C'était extraordinaire. On se laissait entraîner dans cette narration. Il y avait une double narration. En fait, il y avait deux narrateurs qui se relançaient la balle. C'était vraiment... ça a été un succès. Moi, pour moi, ça reste marquant comme étant l'un des très beaux, bons documentaires que j'ai vus, même si le sujet a été excessivement étiré. Donc,
Le sujet est partisan aussi. C'est un documentaire partisan.
Très partisan. Mais quel beau documentaire. Ça nous entraînait vraiment dans un monde magique.
Et là, on va entrer dans quelque chose d'assez spécial, mesdames, messieurs et Christian.
Oui.
J'ai entendu parler de la chose à quelques reprises, mais jamais de manière exhaustive et complète comme avant l'émission. On se parlait, on a une conversation et tu m'as appris des choses, une théorie en fait sur les super civilisations.
Voilà.
Alors, il faut rappeler aux gens, on parle des extraterrestres. Sont-ils intervenus dans l'histoire, par exemple, dans la construction des pyramides d'Égypte? Et là, il y a d'autres théories. L'autre théorie, la plus importante, c'est celle-là, c'est les super civilisations.
Voilà.
Qui auraient donc complètement disparu de la carte.
Complètement disparu. Donc, on comprend que, à l'époque où von Daniken publie son ouvrage, en 1968, c'est une période où les extraterrestres sont très populaires. Et c'est un peu vers cette hypothèse qu'on va s'orienter. Donc, des extraterrestres sont intervenus dans l'histoire. Ils ont aidé les Égyptiens à construire les pyramides et tout le reste. Et puis, voilà, je te dirais, depuis une vingtaine d'années, cette théorie a perdu c'est un peu essoufflé au profit d'une autre théorie, encore là, qui reste bien sûr à prouver et qui fait grincer des dents les historiens, c'est qu'il y aurait eu sur Terre, cette collaboration ne serait pas venue des étoiles, mais serait venue de notre passé. En fait, il y aurait eu sur Terre, avant ces civilisations de l'histoire que l'on connaît, donc Sumer, l'Égypte et tout le reste, il y aurait eu des civilisations qui auraient depuis complètement disparu.
Oui.
Ils n'ont laissé absolument... En fait, avec le temps, le vestige de ces civilisations, c'est complètement effacé.
Et tu me disais que la vie sur Terre, est disparue à quelques reprises, à 4 reprises.
Oui.
Donc, entre ces moments-là de disparition...
Oui.
Qu'y a-t-il eu?
Et ce que tu dis, Jeff...
Que s'est-il passé?
Oui, et ce que tu dis est amusant parce qu'on a eu une sorte de caution scientifique à cette idée-là il y a quelques jours, alors que le docteur Jason Wright, qui est un astrophysicien attaché à l'Université de Pennsylvanie, a annoncé que ses équipes d'astrophysiciens ou les équipes d'astrophysiciens qui travaillent à l'écoute de l'espace, parce qu'il faut savoir qu'on écoute l'espace dans l'espoir de trouver des signaux, de capter des signaux extraterrestres. Là, il fait l'annonce, il dit « On a fouillé à peu près 100 000 galaxies proches les plus proches de notre galaxie. Et on n'a pas entendu ce son, on n'a pas entendu ce signal extraterrestre. Alors, on continue de chercher, mais peut-être qu'on ne cherche pas au bon endroit. » Et c'est là qu'il arrive avec une déclaration tout à fait stupéfiante. Et il nous dit, peut-être que ces super civilisations ou ces civilisations extraterrestres ont peut-être vécu tout près de nous. Et là, il parle de Vénus et de Mars. Et il rappelle qu'à un moment donné, dans l'évolution de notre propre système solaire, des planètes comme Vénus ou Mars ont connu un momentum où la vie était possible et ce momentum a été suffisamment long pour que la vie apparaisse et s'y développe. Alors, il dit, qui nous dit qu'il n'y a pas eu une civilisation sur Vénus, une civilisation sur Mars et qui aurait éventuellement disparu il y a des millions, des milliards d'années? Et bien sûr, les vestiges de ces civilisations auraient disparu. Il ne faut pas se le cacher, notre exploration de Vénus et de Mars demeure pour l'instant minimale.
Oui.
Sur Vénus, température 450 degrés centigrades, il pleut de l'acide sulfurique. On y a envoyé des sondes, mais qui se sont opposées, ont eu le temps de regarder autour d'elles avant de cesser de fonctionner. Et Mars, on a mis des petits robots qui se sont promenés, mais qui ont franchi que quelques kilomètres, et on n'a rien trouvé. Et ce docteur Jason Wright va plus loin. Il dit, et tu l'as mentionné, comme la vie, il y a eu une extinction de la vie sur Terre à 3 ou 4 reprises. C'est-à-dire que la vie est apparue il y a à peu près 1 milliard d'années. La Terre date d'à peu près 4,5 milliards d'années. La vie est apparue il y a à peu près 1 milliard d'années. Elle s'est développée et soudain, pouf, catastrophe, la vie a disparu. Et ensuite, il y a eu une autre période et une autre période. Celle que connaissent bien les gens, bien sûr, c'est celle de il y a 65 millions d'années, ce météorite qui tombe dans le golfe du Mexique et qui va faire disparaître les dinosaures. On aime bien Jurassic Park. Donc, celle-là, on la connaît bien. Mais c'est vrai que la vie a disparu à 3 ou 4 reprises. Alors, Jason Wright dit, qu'est-ce qu'il nous dit qu'entre ces périodes-là, et qui a été suffisamment longue pour voir l'apparition d'une civilisation, peut-être que des civilisations ont existé et ont disparu. Et peut-être que ces civilisations-là ont laissé quelque part des héritages qui auraient été récupérés par Sumer ou les Égyptiens, des secrets disparus. Et cette théorie-là, d'ailleurs, elle a été très mise à la mode de l'avant lors d'une controverse à propos du Sphinx, parce que certains tenants de cette hypothèse de la super-civilisation plutôt que des extraterrestres affirment que le Sphinx n'aurait pas 4 ou 5 000 ans, mais plus de 10 000 ans et qu'il aurait été érodé par de l'eau et non pas par les vents. Et que lorsque les Égyptiens se sont installés sur le plateau de Gizeh, le monument était déjà ancien, laissé par une civilisation disparue.
On va parler maintenant avec Alain. Croyez-vous que les grandes civilisations de l'histoire ont été visitées par des extraterrestres, Alain?
Ben, je pense qu'on va se poser cette question-là jusqu'à la fin des temps. Mais moi, il y a quelque chose, il y a un site qui m'a toujours épaté, même depuis que je suis tout petit. Et j'ai jamais pu savoir comment ça s'est fait. L'île de Pâques. Premièrement, pourquoi on appelait ça l'île de Pâques? Et il y en a qui disent que c'est la nature de Christ.
On perd un peu Alain, mais parlons de l'île de Pâques, justement, Christian.
Donc, l'île de Pâques, ce à quoi fait référence Alain, c'est effectivement cette île qui appartient maintenant au Chili, qui est au large des côtes du Chili, hein, c'est dans l'océan Pacifique. Et cette île, pourquoi on l'appelle île de Pâques? Parce qu'elle a été découverte, par un type qui s'appelle Jacob Roggewein. Elle était connue quand même de quelques navigateurs qui avaient passé par là, qui avaient noté la présence de l'île. Mais celui qui va se porter un peu au nom du découvreur de l'île, Jacob Roggewein, qui découvre l'île le dimanche de Pâques 1722. Donc, à partir de là, il baptise l'île Île de Pâques. Ce qui frappe sur cette île, bien sûr, c'est la présence d'à peu près 1000 statues. On a l'impression qu'elles sont toutes sorties d'un même moule. Elles sont gigantesques. Quand je dis gigantesques, certaines atteignent 15 mètres de haut. Elles pèsent des dizaines et des dizaines de tonnes et elles ont été fabriquées sur à peu près une période de 1000 ans. Et bien sûr, la construction de ces statues, l'origine, pourquoi est-ce qu'on a construit ces statues, comment on les a déplacées, c'est sûr que les historiens ont des hypothèses. Il faut dire que dans l'île de Pâques, il n'y a pratiquement plus d'arbres. En fait, il y en a aujourd'hui parce qu'on a fait une reforestation de l'île, mais à une époque, lorsque Roggewein découvre l'île, il n'y a à peu près plus d'arbres dans l'île. Et l'hypothèse à la mode chez les historiens, c'est qu'on a coupé tous les arbres pour déplacer les statues et éventuellement, tout ça a entraîné une catastrophe écologique. Il y a eu des guerres tribales au sein des sociétés qui vivaient sur l'île. Mais la grande question demeure, pourquoi ces 1000 statues qu'on appelle les Moai, à quoi servaient-elles? Est-ce que c'était un rituel pour les anciens, un rituel pour souligner les ancêtres? Ou est-ce que c'était, comme le soutiennent les théoriciens de l'hypothèse des anciens astronautes, pour faire revenir dans l'île des dieux partis depuis longtemps?
Parfait. Et dans un instant, Christian, on va parler d'un personnage important, un astrophysicien qui a marqué l'histoire, qui a été le meilleur vulgarisateur en astrophysique d'une certaine époque, le 20e siècle, Carl Sagan.
Voilà.
À Mythes et complots sur le réseau Cogeco.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
La Terre fut-elle visitée par des dieux venus de planètes lointaines? Ces dieux étaient-ils des astronautes? Nous avons accumulé bien des preuves de cette hypothèse dans le monde entier. Nous pouvons encore douter de la conclusion. Mais nous n'osons plus ignorer ces preuves. Tant que ces mystères antiques demeureront inexpliqués, la question se posera.
Alors, c'était un autre extrait de notre documentaire, Christian.
Oui, absolument, présence extraterrestre. Oui.
Et d'ailleurs, en terminant l'émission, je souhaite qu'on aille sur un homme qui a marqué l'histoire, qui a été, tu me disais, un des meilleurs vulgarisateurs. Et puis, on va en parler dans un instant de ce Carl Sagan.
Voilà.
Sébastien, ton téléphone depuis quand même assez longtemps. Sébastien, merci de votre patience.
Oui,
est-ce
merci.
Que vous croyez que les extraterrestres soient intervenus dans l'histoire?
Je crois que oui. Je crois que on parlait des pyramides tantôt, puis je crois que on n'a pas parlé des pyramides en Antarctique. J'aimerais ça avoir un son de cloche de Christian.
Christian.
Ben, c'est ça. Donc, les pyramides en Antarctique, ce sont une série de photos, et en particulier par des images qui ont été obtenues via comme Google Earth et autres, où on voit des sortes de têtes de pyramides qui semblent émerger des glaciers ou de la neige. Mais pour l'instant, on n'a pas d'expédition qui s'est rendue sur place. Donc, l'hypothèse à la mode en ce moment, c'est que ces fameuses pyramides ne seraient finalement que des pointes de montagne qui émergent de la neige. Mais tant et aussi longtemps qu'une équipe ne se sera pas rendue sur place, on n'aura pas véritablement une explication, ou à tout le moins une certitude quant à la nature de ces fameuses pyramides de l'Antarctique.
Merci, Sébastien. Puis merci d'avoir participé en grand nombre. On aurait pu en prendre davantage. L'émission s'achève, en tout cas dans les prochaines minutes. Et prenons le temps d'en parler un peu là, de ce Carl Sagan.
Voilà, parce que quand on a parlé en début d'émission qu'il y a toujours ce bras de fer entre les historiens, la communauté académique et les théoriciens qui adhèrent à l'hypothèse des anciens astronautes. Et c'est vrai qu'on a écrit beaucoup là-dessus, et c'est vrai qu'on a écrit dans des pages arrachées de l'histoire. Ça fait rêver. Est-ce que c'est la réalité? Ça fait rêver à tout le moins. Et comme on n'a pas de pages d'histoire, on n'a pas de documents historiques pour affirmer les hypothèses que proposent les historiens, bien sûr, c'est la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Mais quand même, il faut faire référence à cette vision que Carl Sagan avait donnée à propos de Chariot of the God, donc la version anglophone de Présence des extraterrestres. Von Daniken avait dit à propos de ça, il dit, j'espère que les livres comme Chariot of the God seront toujours populaires également dans les cours de logique des lycées et des universités comme exemple de raisonnement vaseux. Je ne connais pas de livres récents contenant plus d'erreurs factuelles et de logique que les livres de Eric von Daniken. Et ça, c'était Carl Sagan qui avait dit ça. Carl Sagan, qui est probablement l'un des plus grands vulgarisateurs scientifiques du 20e siècle. Il a collaboré à plusieurs projets. Il était plutôt ouvert à l'hypothèse des extraterrestres. On lui doit notamment, il a participé, par exemple, à la création de ces disques qu'on avait placés sur les sondes Voyageur 1 et Voyageur 2, qui ont emmené dans le cosmos des messages de l'humanité.
Peut-être, des chansons populaires,
peut-être, éventuellement. Oui. Parce que ces sondes, après avoir photographié les grandes planètes joviennes, ont quitté le système solaire et sont à la dérive. Et qui sait, peut-être un jour seront-elles interceptées ou tomberont-elles sur une planète habitée. Et Carl Sagan et d'autres, il n'est pas le seul, mais d'autres avec lui ont dit, pourquoi ne pas mettre un message venant de la Terre?
Bonjour donc, en multitude de langues.
Oui. Donc, on voit que les extraterrestres sont omniprésents. Il y a toujours ce bras de fer entre les historiens, les théoriciens de l'hypothèse des anciens astronautes. Tout ça nous fait rêver. Il ne faut pas perdre de vue, bien sûr, que tout ça ne sont que des spéculations. Et d'un côté, on a les historiens qui souvent appuient leur raisonnement sur des antécédents, sur d'autres documents ou sur des parallèles historiques bien documentés, alors que très souvent, ceux qui adhèrent à la théorie des anciens astronautes, ce n'est qu'une gymnastique intellectuelle. C'est une gymnastique, bien sûr, qui fait rêver, mais qui ne repose souvent sur pas grand-chose.
Voilà, donc remplir des pages d'histoire manquante pour reprendre tes paroles, ça fait rêver.
Il faut quand même.
Mais c'est fascinant aussi. Ça fait rêver, mais c'est fascinant.
Absolument.
Ça fait nous poser des questions aussi quand même.
Et si tu me permets, Jeffrey, je voudrais justement nous parler de la théorie des anciens astronautes ou nos ancêtres, les extraterrestres. Alors, je rappelle aux auditeurs que je vais justement tenir une conférence sur cette thématique. Ça sera le 14 octobre prochain à 19h30 au Centre Roussin à Montréal, à Pointe-aux-Trembles. Et les gens pourront trouver toutes les informations sur cette conférence sur ma page page Internet, ma page web, qui est le Christian Page, d'un seul mot, christianpage.ca. Et là, on va vraiment aller dans le détail. Je vais passer des pyramides d'Égypte au temple Maya par des constructions Inca en passant. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Les écrits historiques, parce que, bien sûr, à en croire les amateurs de la théorie des anciens astronautes, les écrits anciens et particulièrement la Bible foisonneraient d'exemples de ces contacts entre les dieux et les hommes, des dieux qui étaient venus, disent-ils, d'une autre planète.
Mais il faudra y revenir dans une prochaine émission, assurément.
Absolument. C'est un sujet tellement riche qu'on aurait pu faire facilement 2 heures ou à tout le moins 2 émissions là-dessus.
Dans un instant, référendum en Catalogne, le bilan des blessés s'alourdit. Plus de détails dans Cogeco Nouvelles. Merci à toute l'équipe. Catherine Huet, Valérie Beaudoin, Mario Langlois, Christian, merci.
Merci, Jeff.
On se reprend la semaine prochaine, 14 heures, pour un autre Mythes et complots. Salut!